Eh bien, ça faisait presque un bail. C'est toujours un plaisir renouvelé et un privilège de prendre la parole pour partager avec vous la parole du Seigneur. Ce matin, ma prédication, chers amis, est une introduction à une nouvelle série de prédications qui s'inscrit dans une réflexion que nous avons amorcée déjà lors de notre week-end de rentrée en septembre. Vous voyez, il ne faut pas perdre le fil. Nous avons commencé cette année en Église sur le thème « Une communauté de disciples qui fait des disciples ». Nous vous avons invité à lire le livre des Actes des Apôtres, ce que nous faisons les uns les autres dans le cadre de nos groupes de maison. Et nous avons été accompagnés, nourris par de nombreuses prédications au fil du livre des Actes des Apôtres. Et puis, nous avons été encouragés ces dernières semaines à l'importance de la transmission. C'était le message de notre frère David la semaine dernière que j'ai eu plaisir à écouter puisque je n'étais pas au milieu de vous. Ma prédication marque donc une nouvelle série de 8 messages que je n'assumerai pas tout seul, mais avec celles et ceux qui ont l'habitude de prêcher, pour l'essentiel les membres du conseil de l'Église. Donc, sur une thématique qui va s'afficher, devenir un disciple émotionnellement sain. Ce thème reprend in extenso le titre d'un ouvrage d'un auteur, Peter Scazzero, qui a écrit de nombreux ouvrages autour de cette question de la maturité spirituelle et émotionnelle. Les deux sont liés, et nous en dirons quelques mots. Pour ma part, l'un des premiers livres que j'ai lu de Peter Scazzero s'appelle « Je souffre, écoute-moi ». Je l'avais partagé avec le conseil de l'église de Grenoble, puisque ces 11 dernières années, j'y étais pasteur. Et nous nous posions la question de savoir pourquoi est-ce que l'église est un lieu où nous nous blessons souvent les uns les autres. Pourquoi est-ce que les gens en souffrance dans leurs émotions blessent d'autres, plus que ceux qui sont joyeux ne contaminent les autres. Comment prendre en compte ces souffrances de l'âme, ces passions de l'âme, et comment les accompagner? Peter Scazzero avait lui-même été bouleversé par sa propre souffrance, et notamment celle de Jerry, son épouse, lorsqu'un jour elle lui a dit « Peter, je quitte l'église. » Je quitte l'église, c'est l'épouse du pasteur, vous imaginez, c'est comme si Nadia disait « Paul, je quitte le CMLK, je quitte l'église. » Waouh, comment je vais expliquer ça? Elle lui dit « Je quitte l'église parce que je me suis engagé à marcher à la suite de Jésus dans un projet de vie et non dans un projet de mort. Cette église ne me rend plus vivant, cette église me rend malade et cette église m'apporte la mort. » Waouh ! Quelle souffrance ! Peter a décidé humblement d'écouter la souffrance de son épouse. Il a décidé d'être vrai et de le présenter aux responsables. Et c'était le début pour lui d'un cheminement profond pour écouter d'où venait cette souffrance et s'arrêter dans l'élan de son ministère et d'aller en profondeur. On se l'est déjà dit, mais c'est toujours important de le redire. Et si vous êtes nouveau dans une église, si vous entrez pour la première fois peut-être dans une église ce matin, c'est important que vous sachiez que nous ne sommes pas des personnes parfaites, que nous ne sommes pas des personnes achevées, construites totalement, que nous ne sommes pas des personnes irréprochables. Mais c'est aussi important de redire que le projet du Christ, c'est de prendre des hommes, des femmes brisés que nous sommes, des hommes, des femmes blessés que nous sommes, pour nous guérir, pour nous restaurer et nous donner ou nous redonner ce visage d'une humanité réconciliée avec Dieu, spirituellement et émotionnellement. Cette série va nous aider à aborder des questions que nous laissons simplement trop souvent aux marchands du bien-être et de la psychologie de comptoir. Je crois que quand nous n'abordons pas ces sujets également au regard de l'Écriture, eh bien nous laissons ce champ à tant d'autres acteurs. Et il suffit de voir le nombre de mètres linéaires qu'occupent maintenant les livres du bien-être, de la slow vie, de la cool attitude. Il y a un besoin profond dans notre société post-chrétienne de redécouvrir un sens qui donne envie de vivre sa vie. Les hommes et les femmes de notre temps cherchent des réponses de sens et ne se contentent pas de s'inscrire dans une tradition, dans une assignation quelconque. Et ma question, c'est pourquoi ne viennent-ils pas plus à l'église? Eh bien, peut-être parce que, disons-le nous, humblement, peut-être parce que nous ne savons pas incarner une humanité qui donne envie. Peut-être parce qu'ils ne trouvent pas un sens à l'église. Et peut-être parce que nous ne leur parlons pas du sens profond qu'il y a à être église. Alors nous allons aborder plusieurs questions. Les questions du l'être en Dieu ou du faire pour Dieu. Nous allons nous interroger, pas aujourd'hui, au fil de cette réflexion, savoir quel Jésus suivons-nous et quel Jésus présentons-nous au monde. Le Jésus de l'Évangile ou le Jésus de Hollywood ou de Bollywood ou de Nollywood. Le Jésus fantasmé de notre imaginaire. Quelqu'un a parlé, c'est William, des limites. Qu'est-ce que nous allons faire avec nos limites? Rester dans nos limites ou les dépasser? Que faire de nos chagrins? Nous avons chanté « Dieu de l'impossible, tu peux tout accomplir ». En tant que pasteur, je sais que quand il accomplit tout, c'est super. Mais moi, je n'ai pas de problème quand il accomplit tout. Je suis au chômage quand il accomplit tout. Et j'aimerais l'être davantage. Mais j'ai du travail quand il n'accomplit pas ce que j'ai chanté. J'ai du travail quand il faut faire route dans l'acceptation du non exaucé. Déjà. Comment nous gérons ça? Ces sujets de prière de 20 ans, 30 ans, dont nous n'avons pas vu l'exaucement. Comment nous gérons ces échecs apparents du non-accomplissement et donc de la non-toute-puissance que nous chantons parfois? Est-ce que c'est vrai que je peux tout accomplir simplement parce que je le chante? Est-ce que je suis aussi tombé dans cette croyance de la parole performative parce que je chante, ça y est, c'est fait? Et qu'est-ce qui se passe si ici, maintenant, je ne peux pas tout accomplir comme je l'ai chanté? Est-ce que Jésus a échoué, aurait échoué? Nous allons aborder ces questions tout au long de cette série. Quelle place faire à l'échec? Quelle place faire à la faiblesse? Quelle place faire à nos vulnérabilités? Comment cheminer vers la maturité spirituelle? Que faire de mes blessures du passé ou des blessures de mon passé? Au fil de ce parcours, moi-même, les autres, nous allons essayer d'éclairer sous différents aspects cette thématique « Devenir un disciple émotionnellement sain ». Avec ce titre, vous pouvez même retrouver le livre de l'auteur. Mais nous n'allons pas prêcher un livre. L'écrit de Peter Scazzero peut être stimulant, mais ce n'est pas là-dessus que nous voulons fonder l'Église. En revanche, il peut être une ressource qui vient éclairer notre réflexion et à ce titre, je vous le recommande comme je l'ai recommandé à l'équipe pastorale. Ce matin, mon projet va se circonscrire à réfléchir avec vous à la question suivante. Quelles sont les failles qui compromettent une vie de disciple en profondeur? Nous l'avons entendu, Vincent nous l'a dit. Nous avons un Dieu qui a un projet de vie fructueuse pour nous. Un Dieu qui veut que nos vies portent du fruit et soient en bénédiction. Un Dieu de la vie et de la vitalité. Et pourtant, la réalité de nos vies est souvent une vie, des vies essoufflées, des vies rétrécies, des vies dévitalisées, des vies brisées. Quelles sont les failles qui compromettent une vie de disciple en profondeur? Peut-être avez-vous en tête des personnes, des amis, vous-même, votre propre cheminement, des personnes qui avaient si bien commencé et qui ont envoyé tout ça, qui ont remis tout ça de côté et qui sont retournées à leur ancienne manière de vivre. Que s'est-il passé? Il est important pour devenir un disciple spirituellement et émotionnellement sain. Somme toute, un disciple en maturité spirituelle. De commencer d'abord par réfléchir à quels sont les obstacles, les écueils, les failles. Et pour le faire, j'aimerais nous lire une parabole de Jésus qu'on retrouve dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Une parabole que peut-être vous allez entendre pour la première fois, pour certains, pour d'autres peut-être pour la énième fois. La parabole du semeur. Nous lisons la parole du Seigneur au chapitre 8e de Luc, les versets 4 à 15. Une grande foule ayant afflué de chaque ville s'était rassemblée autour de lui. Alors Jésus leur raconta cette parabole. Un semeur sortit pour faire ses semailles. Pendant qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin, furent piétinés par les passants et les oiseaux du ciel les mangèrent. D'autres tombèrent sur de la pierre. À peine eurent-ils germé que les petits plants séchèrent parce que le sol n'était pas assez humide. D'autres grains tombèrent au milieu des ronces. Celles-ci poussèrent en même temps que les bons plants et les étouffèrent. Mais d'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils germèrent et donnèrent du fruit. Chaque grain en produisit 100 autres. Et Jésus ajouta, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Et un peu plus loin, verset 11, « Voici donc le sens de cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Au bord du chemin, ce sont les personnes qui écoutent la parole, mais le diable vient l'arracher de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Sur de la pierre, ce sont ceux qui entendent la parole et l'acceptent avec joie, une émotion, ou avec empressement d'une autre version. Mais comme ils ne la laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère. Lorsque survient l'épreuve, ils abandonnent tout. La semence tombée au milieu des ronces représente ceux qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, de sorte qu'elle ne donne pas de fruits. Enfin, la semence tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Psaume 51. Ils persévèrent et ainsi portent du fruit la promesse que notre frère nous a rappelée ce matin. Jésus se présente dans cette parabole du royaume comme un semeur venu dans le champ de notre humanité, l'ensemencé d'une semence de vie. D'une semence qui est celle du royaume qu'il est venu inaugurer. Alors, nous n'allons pas nous arrêter sur la technique du semeur au temps de Jésus. La technique de semaille à la volée, il faut reconnaître, a existé, et peut-être encore existe, mais à une époque, la nôtre, où la technique a tout révolutionné et où le semeur est préoccupé des ratios de rendement, de performance, eh bien, nous pourrons dire que ce semeur est un peu indélicat dans sa façon de s'y prendre. Mais là n'est pas le propos de Jésus. La pointe de cette parabole est ailleurs. Cette parabole vient nous poser la question de la réception de cette semence promise à la vie, à l'éclosion. Et elle vient nous dire que le semeur ne choisit pas a priori le terrain. Il est généreux, il est plein d'espérance. Et il croit que la semence peut féconder toute terre. Mais que si cela n'advient pas, il ne faut certainement pas chercher le problème et la faille du côté du semeur. Il ne faut pas non plus la chercher du côté de la semence. Mais il faut se poser la question de la réception. Comment je l'entends? Comment je reçois? Entendre, écouter sont deux verbes qui reviennent beaucoup chez Luc dans cette partie. Certains ont écouté Jean-Baptiste, en fait ils l'ont entendu, mais ils ne l'ont pas écouté. C'est comme s'ils écoutaient un spectacle, un stand-up. C'est juste le chapitre qui précède notre passage. D'autres écoutent Jésus comme un bel orateur, comme un harangueur de foule. Ils l'entendent, mais ne l'écoutent pas. Entendre, écouter. Je voudrais pointer trois écueils, trois failles, arrêter sur trois failles, qui peuvent compromettre une vie profonde de disciples. La première faille, écouter sans garder. Cela correspond, on va le voir au verset suivant, à ceux qui restent au bord du chemin. Ce sont des personnes qui écoutent la parole de Dieu, mais le diable vient l'arracher de leur cœur. Autrement dit, si je devrais transposer ce que le Christ nous dit ici à notre sujet, une spiritualité émotionnellement saine, je dirais que la spiritualité du bord du chemin, la spiritualité du seuil, la spiritualité de la surface, n'est pas une spiritualité qui peut nous conduire vers une maturité spirituelle et émotionnelle, saine. Ils entendent, ils écoutent la parole, mais ils ne l'ont pas gardée de sorte que le premier venu a enlevé la parole qui a été écoutée. Cela nous rappelle que écouter ne suffit pas. Écouter des prédications semaine après semaine n'est pas suffisant pour transformer nos vies. Écouter des prédications des méga-churches. Vous savez, il y a des chrétiens qui me disent « Oui, pasteur, j'ai écouté ça, j'ai écouté aussi Mulhouse, j'ai écouté aussi MLK, j'ai écouté aussi... » Faites votre tourisme des prédicateurs, mais je sais, et nous le savons, vous et moi, que ce n'est pas ça qui change la réalité de nos vies. Je disais que le chapitre précédent, c'est Jésus qui interpelle ceux qui le suivent en disant « Lorsque vous êtes allés écouter Jean-Baptiste, qu'êtes-vous allé vraiment écouter? Qu'êtes-vous allé pour entendre ?» Et mon ami, tu peux être parmi nous ce matin. Tu peux aimer cette église pour ce que tu vois comme signe extérieur. Tu peux aimer le style de louange ou ne pas aimer d'ailleurs. Tu peux aimer les prédicateurs ou ne pas aimer d'ailleurs. Tu peux aimer tel style plus que tel autre. Mais permets-moi de te dire avec amitié, là, ce n'est que le bord du chemin encore. Ce n'est que le bord du chemin. Le bord du chemin évoque une route, un lieu de passage, un lieu où on piétine. Il y a des spiritualités modernes qui nous coupent de l'ancrage à des communautés ecclésiales, par exemple, et qui sont des spiritualités du nomadisme spirituel. Alors ça fait très cool de dire qu'on a fait le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, c'est vrai, et on peut le faire avec sa Bible. Et on peut le faire pour s'approfondir. Et je connais des amis et des chrétiens, y compris évangéliques, qui ont été tellement bénis pendant qu'ils lisaient la Bible sur le bord du chemin. Mais combien restent justement sur ce bord du chemin sans jamais rencontrer profondément Jésus-Christ? Le bord du chemin, pour moi, c'est la religiosité. C'est s'inscrire dans une culture d'église. Comme on s'inscrivait pendant des siècles dans une culture, dans une tradition familiale, et qu'on portait le nom de chrétien ou le nom d'une église, parce que le grand-père, la grand-mère, les arrière-grands-pères et toute la nation venaient de cette religion-là. Et les évangéliques commencent eux aussi à avoir la troisième génération et même la quatrième génération. Et ceux de la troisième ou de la quatrième génération peuvent venir à l'église, comme nos enfants qu'on a vus ce matin, grandir, devenir ados, puis jeunes adultes, tout en restant au bord du chemin. Alors ils ont appris l'histoire de Moïse qui a ouvert la mer Rouge en deux, comme nous a dit notre frère. Ils ont appris l'histoire d'Élie, de David. Ils peuvent situer un peu quelques personnages, mais ils restent au bord du chemin. Et un jour, il n'y a plus rien. Parce que sur le bord du chemin, cette semence n'est pas gardée. Parce que sur le bord du chemin, cette semence en surface n'a pas prise. Parce que sur le bord du chemin, Satan et ses oiseaux a tout volé. Le disciple qui veut cheminer vers la maturité spirituelle, écoute, mais il doit également garder. La Bible nous dit que Marie gardait dans son cœur les paroles de Dieu. Elle ressassait, ruminait la parole de Dieu dans son cœur. Quand Moïse passe le flambeau à Josué, il ne lui dit pas simplement « lis la parole de Dieu », mais il dit « médite-la, rumine-la, jour après jour, dans ton cœur ». Il y a un sondage qui vient d'être publié par IFOP. Ce sondage a été commandé par la Fédération protestante de France. Le dernier sondage de la même envergure a eu lieu en 2010. Et ce sondage, sur lequel je reviendrai encore dans quelques instants, nous dit plusieurs choses. D'abord, je vais commencer par les bonnes nouvelles qu'on y a vues. La bonne nouvelle, c'est que le nombre des protestants et protestants évangéliques se consolide en France autour de 2%. On dira entre 2% et 3%. Ça reste une minorité. Mais ça maintient le protestantisme, y compris dans sa composante évangélique, comme le troisième courant religieux en France. Après le catholicisme, l'islam, c'est les protestants et protestants évangéliques. Le sondage montre que, au sein des sondés, ceux qui se sont dit évangéliques ont progressé de 15 points en 15 ans, en 14 ans on va dire, puisque ça a été fait fin d'année 2024 et ça a été publié le 23 janvier 2025. De 15 points. C'est-à-dire que les églises évangéliques grandissent beaucoup, un point par an, et que si on se projette, et si cette dynamique était maintenue, il deviendrait majoritaire dans le paysage protestant, toute mouvance confondue. Elles s'étendent, mais comme quelqu'un a dit, c'est pas gentil, mais parfois c'est vrai, elles s'élargissent comme un lac qui fait un kilomètre de large, mais 5 cm de profondeur. Alors je l'avais entendu aussi quand on parlait des réveils ou de la croissance des églises en Afrique ou dans le Sud. On disait, oui, ça grandit comme un océan, mais 1 cm de profondeur. Et de par mes origines, je me dis, ils sont quand même gonflés. Et bien quand je le lis de ce côté, je me dis, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la croissance numérique n'est pas une fin en soi. Et ça veut dire que la profondeur de nos vies, la profondeur des disciples, n'est pas d'abord une question de nombre. Et ce passage vient nous parler de l'importance de la profondeur. De l'importance de ne pas rester au bord du chemin. De l'importance de ne pas construire sa spiritualité sur l'extériorité d'abord. Ce qui se voit. Cela nous a été rappelé par une pensée. Dieu ne regarde pas d'abord à ce qui se voit. Il regarde à l'intérieur. Alors ce parcours veut nous aider à faire ce chemin vers l'intérieur et à prendre soin de notre intérieur. La deuxième faille à l'écoute de cette parabole, me suivez les amis là-bas, écoutez sans s'enraciner. On peut écouter, quitter le bord du chemin, rejoindre une communauté et commencer à vouloir s'enraciner. Mais s'enraciner, d'une certaine manière, en surface. Vous êtes peut-être une belle orchidée. Moi, j'aime les orchidées. Elles sont diverses, elles sont belles. Vous voyez, on ne les met pas en pleine terre en général. En tout cas, les miennes, je peux parfois voir leurs racines tout en surface. Elles sont faites pour ça, et c'est comme ça d'ailleurs qu'elles sont. Et c'est le cas de la deuxième catégorie. Écoutez sans s'enraciner. Merci de passer le verset. Jésus nous parle de cette semence qui est tombée sur un sol pierreux ou rocailleux. Un sol en réalité qui n'a pas une profondeur suffisante de terre pour que la semence puisse s'enraciner davantage. Beaucoup de chrétiens, après quelques années de foi, sont souvent comme une plante dont les racines s'enroulent entre elles à la mesure et à la limite du pot. En surface, et finissent par tourner sur eux-mêmes en rond. Ils ont besoin d'être rempotés dans quelque chose de plus large et même d'aller en pleine terre. S'enraciner, c'est trouver cette communion avec la parole de Dieu et le Christ en profondeur. En profondeur. C'est quitter les façades et accepter de laisser le Christ rejoindre les profondeurs de notre âme. Simone Paco, je permets de la citer, a écrit un livre et a fondé d'ailleurs un ministère œcuménique d'ailleurs, mais qui s'appelle l'évangélisation des profondeurs. J'ai très peu lu des livres aussi touchants qui viennent rejoindre notre intériorité délicatement, mais précisément pour nous faire grandir. En sachant que plus les racines puisent dans le terreau de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de la présence de Dieu, et plus nous sommes à ses pieds, cela sera développé par la prochaine prédication, plus nous sommes avec lui, nous passons de ce qui nous caractérise souvent dans notre culture évangélique, alors du faire pour Dieu à l'être avec Dieu. Ce qui me frappe également dans ce passage, c'est qu'il y a comme une dichotomie qui s'est opérée dans ses auditeurs entre la première réaction émotionnelle et l'enracinement. Le texte nous dit qu'ils entendent la parole et l'acceptent avec joie. Beaucoup de chrétiens ont des difficultés à être reliés, à être unifiés. Nous avons, pour certains, reçu une éducation spirituelle qui nous a quelque peu handicapés du point de vue de cette connexion avec nos émotions. Un garçon ne pleure pas. Il ne faut pas chialer comme une fillette, comme une madeleine. Le protestant n'est pas trop démonstratif. Ne levez pas trop les mains, n'explosez pas comme ça, ça ne fait pas trop sérieux, etc., etc. Nous avons été comme coupés d'une part importante de notre anthropologie, de notre nature humaine. Les émotions, ce n'est pas quelque chose d'accidentel dans nos vies. Ce n'est pas quelque chose qui arrive après coup. Dieu nous a créés avec cette dimension, à la fois spirituelle et incarnée. Et avec ce lien psycho-affectif. Mais hélas, parfois, j'ai l'impression que certains chrétiens lisent l'évangile avec les lunettes de Platon. Alors je ne vais pas trop faire philosophe, je n'en ai pas toutes les compétences, mais le peu que j'ai lu, classe de terminale, le fameux mythe de la caverne, cette vision du monde en deux étages, dans la caverne, ceux qui sont matérialistes en quelque sorte, et au plafond, en quelque sorte, au ciel, le monde de l'esprit, des idées, les idéalistes. Une vision coupée en deux. Et qui nous a peut-être inculqué la peur et le mépris de tout ce qui est connecté, incarné, pour aller vers une sorte de spiritualité désincarnée, de spiritualité complètement aller dans les airs. Jésus nous parle de la grâce et du mystère de l'incarnation. Jésus n'est pas venu comme un pur esprit, mais la bonne nouvelle que nous avons célébrée à Noël nous dit que le Dieu de toute éternité s'est fait proche et il a pris chair. Et regardez comment Jésus était pleinement homme au point d'assumer lui aussi ses émotions. La Bible nous dit que quand il voyait une foule de gens en difficulté, ses entrailles frémissaient de compassion. La Bible nous dit que quand il est arrivé dans la famille de son ami Lazare, et que ce Lazare était mort depuis plusieurs jours, et les gens pleuraient, il y avait des pleureuses, des pleureurs, et Jésus pleura. Je vais vous faire un témoignage personnel, mes amis. En 2014, je l'ai déjà dit peut-être, j'ai vécu une épreuve douloureuse. J'ai perdu un frère à l'âge de 40 ans. C'était si brutal parce qu'on s'était parlé la veille. Et le lendemain matin, il n'était plus. Mon épouse, Nadia, était enceinte de Nice, que vous connaissez, presque à terme. Et ma maman était là en visite. Et elle venait voir l'enfant de mon grand frère, une charmante petite fille qui a maintenant une dizaine d'années. Elle avait juste quelques mois. Et dans cette vie joyeuse, prometteuse, l'irréparable s'est produit. Et nos cœurs ont été brisés. Mais je ne pouvais pas me permettre de pleurer. Je ne pouvais pas me permettre de flancher. J'ai porté ma mère, mon épouse, nos enfants, toute la famille, jusqu'à rapatrier le corps de mon frère. Jusqu'à son enterrement. Je l'ai porté, coupé, dissocié de mon humanité, de mes émotions, de mon ressenti. Et à mon insu, mon cœur s'est durci. Et je ne supportais plus la moindre plainte. Et si un paroissien me disait, « Mais pasteur, ça fait un mois que tu n'es pas passé me voir. » Et je me disais à moi-même, et tu ne me verras pas avant 6 mois. Qu'est-ce que c'est que ces enfants gâtés là? Mais c'est parce que j'étais malade du cœur. Je n'avais pas déposé ma douleur. Je ne m'étais pas permis de crier ma plainte. Mon sentiment d'injustice. Ma colère. Et puis, bien sûr, il y avait Job 1 qui venait, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que j'ai refoulé. Je ne veux pas entendre cela. Et combien parfois, quand on chante ce chant, qui est très bien, et quand on arrive à cette partie, tu donnes et tu reprends, combien de fois parfois, ça me ramène à cela. Jésus a pleuré. Jésus a reconnu nos émotions. Mais une chose, c'est d'être à l'écoute de ces émotions. L'autre chose, c'est de les absolutiser. Nos émotions ne sont pas une vérité absolue. Nos émotions ne disent pas la vérité absolue sur qui nous sommes. Nos émotions ne disent pas la vérité absolue sur qui est Jésus, sur qui est Dieu. Je sais simplement une chose, c'est que rien dans la Bible ne nous demande de les refouler. Rien dans la Bible ne nous demande de nous dissocier de nos émotions. Au contraire, Dieu veut nous rencontrer, y compris avec la joie. Mais il veut nous amener plus loin que nos émotions. Et c'est ce que celui-ci ou cette catégorie n'a pas réalisé. Avec joie, nous chantons le Seigneur. Avec joie, nous proclamons sa vie. Mais jusqu'où la réalité de ce qu'il est et de ce qu'il a fait pour moi s'est enracinée. Il m'a fallu 4 ans au moins pour être capable de parler de cette histoire très intime sans m'effondrer. Et ça fait 10 ans que quand j'en parle encore, croyez-moi, je pleure de l'intérieur. C'est vivre avec l'irréparable. Vivre avec l'irréparé. Vivre avec l'inconsolable. Vivre avec l'inconsolé n'est possible, mes amis, que parce que le Christ nous rejoint en profondeur, nous enracine dans l'assurance de son amour. Et alors notre foi n'est pas un feu de paille, n'est pas un enthousiasme d'un instant, mais devient ce lieu d'une rencontre et d'un dialogue intérieur qui se prolonge au-delà de l'épreuve. Parce que la parabole nous le dit, le chemin est semé et est parsemé d'épreuves. L'immaturité spirituelle et émotionnelle, c'est parce que parfois nous avons des fausses croyances. Nous séparons maturité spirituelle et maturité émotionnelle. Nous n'intégrons pas notre finitude dans la volonté de Dieu. Nous n'intégrons pas la souffrance. Nous voulons la rejeter absolument. Et c'est là aussi un symptôme d'une immaturité émotionnelle. Je vais vite, mes amis, parce que c'est qu'une introduction. Tout ceci sera développé par d'autres. Troisième faille. Écouter sans se laisser transformer. On a quitté le bord du chemin. On a réalisé que Dieu ne peut pas se satisfaire d'un vernis spirituel ou religieux. On veut s'enraciner et on comprend que plus on s'enracinera, mieux notre foi grandira et s'épanouira. Mais alors sommes-nous prêts à nous laisser transformer, à nous laisser émonder? En venant ce matin de Bouillargues à ce lieu, j'ai vu des personnes dans les vignobles avec leur sécateur en main, très tôt dans le froid. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font? Et j'ai regardé qu'ils étaient en train d'émonder quelques branches de vigne. Moi, je ne connais pas ce boulot. Mais si je regrette qu'ils le fassent le dimanche, mais bon, c'est comme ça. Je me suis dit, tiens, Jean 15, le Christ va nous émonder. Émonder ne signifie pas qu'il va le faire pour notre perte. Émonder signifie qu'il va nous purifier, qu'il va arracher ce qui doit l'être. Il doit faire mourir en nous ce qui doit l'être. Mais afin que nous puissions nous épanouir, afin que cette vitalité puisse se manifester. Mes frères et sœurs, la bonne nouvelle de l'Évangile est un message qui transforme les vies. Je peux témoigner humblement qu'elle a changé ma vie. Et même s'il y a encore beaucoup de travail à faire, vous avez quand même reçu la meilleure portion. Et si parfois elle ne vous semble pas tout à fait agréable, qu'est-ce que c'était avant? Je bénis le Seigneur pour cette transformation dans nos vies, dans nos cœurs. On va avancer rapidement. J'ai besoin d'avancer, c'est mon voilà. La semence tombée au milieu des ronces, nous dit Jésus, représente ceux qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Les richesses ne sont pas mauvaises, le plaisir non plus. Disons-le, la notion de plaisir n'est pas un gros mot pour les chrétiens. Nous ne sommes pas des gens qui aimons ce qui fait mal. Nous ne sommes pas sadomaso. Moi, je suis un joyeux, un tantinet même épicurien. Mais en Jésus, pas le plaisir pour le plaisir, pas l'argent pour l'argent. Jamais se laisser asservir par ce que Dieu nous donne. Un amour mal placé dans tout ce que Dieu nous donne entraîne une maladie spirituelle. Alors, c'est un peu je vous donne comme ça quelques pistes de livres. Celui-ci se lit très facilement. Les maladies de la vie spirituelle de Daniel Bourguet. Il est très bien. Il va vous conduire dans une méditation profonde de comment est-ce que l'immaturité émotionnelle de Caïn, qui a été jaloux de son frère Abel et qui ensuite lui en a voulu, et comment cette jalousie l'a conduit à tuer Abel. Et qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui ? Attention, lorsque la colère, la jalousie, nos émotions ne sont pas sanctifiées et que nous ne nous laissons pas transformer par la parole de Dieu parce que Dieu lui a parlé. Fais gaffe, Caïn. Je vois une bête devant la porte de ta maison qui est prête à te dévorer. Fais gaffe. Et puis la deuxième partie de ce livre nous donne aussi l'enracinement des siècles qui nous ont précédés avec les pères de l'Église, notamment les pères grecs, qui ont beaucoup étudié ces questions qu'on appelle les passions de l'âme, les maladies de l'âme. Et vous reconnaîtrez peut-être si je dis les sept péchés capitaux. Alors parfois, quand on dit les sept péchés capitaux, on caresse le huitième qui est tout mignon. On se dit, ouf, ça ne fait pas partie de la liste des sept. Alors on le caresse, il est mignon. Mais non, il n'y a pas de péché mignon. Il n'y a pas de péché mignon. On avance, s'il vous plaît. Je vais conclure. Pardon, reviens à l'arrière. Merci beaucoup. Mes amis, j'ai pensé en préparant ce message à quelques épisodes de l'Écriture où nous voyons que la maturité spirituelle se traduit dans le cadre des relations humaines ou interpersonnelles par aussi une maturité émotionnelle. Je vous prends juste quelques exemples, je vais aller rapidement. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, c'est l'apôtre Paul qui écrit à une église comme la nôtre, très spirituelle. Une église où on chante en langue. Une église où on prophétise, où on donne des visions. Mais il leur écrit ceci. C'est là que j'ai besoin de toi. En réalité, frères et sœurs, bridez pas les yeux, je vais le lire. Je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes et des femmes conduits par l'esprit. J'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes ou des femmes livrés à eux-mêmes, comme à de petits enfants en Christ. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors. Et même aujourd'hui, vous êtes encore incapables de la supporter, parce que vous êtes comme des hommes et des femmes livrés à eux-mêmes. En effet, lorsque vous vous jalousez les uns les autres et que vous vous disputez, n'êtes-vous pas semblables à des hommes livrés à eux-mêmes ? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine ? Maturité spirituelle en lien avec ce qui se passe dans nos émotions et dans les sentiments profonds de nos cœurs. La jalousie est un symptôme de quoi ? Qu'est-ce que ça vient me signaler ? La rivalité est un symptôme de quoi ? Qu'est-ce que ça vient pointer en moi ? Les disputes révèlent quoi ? Qu'est-ce que ça vient nous dire ? Vous voyez qu'on ne peut pas juste dire, l'Église, on ne regarde pas aux émotions, aux sentiments. Paul est en train de dire à ses très chers frères, très spirituels, la façon dont vous vous conduisez m'amène à vous parler, non pas comme à des personnes adultes, matures, mais comme à des enfants. Et à des enfants livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire selon la mentalité du monde. Comme si vos vies n'avaient pas été transformées par la parole du Christ et par l'exemple du Christ. Et pourquoi Paul leur dit ? Parce que si vous lisez la suite du chapitre, ils se divisent. Malgré les apôtres, ils choisissent. Ah, moi je préfère Paul. Ah non, moi je suis d'Apollos. Ah non, moi je suis de Pierre. Et puis les plus spirituels disent, ah ben ça c'est rien. Nous on va direct. Moi je suis de Christ. Paul dit que ça ne peut pas être un signe de bonne santé spirituelle. Et ça ne peut pas non plus être un signe de bonne santé émotionnelle. Premier exemple. Un autre exemple se trouve sous la plume de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Au chapitre 5, il nous dit ceci. Il vient de parler de Jésus-Christ, le grand prêtre, au-dessus de Moïse, au-dessus de la loi, celui qui a tout accompli, c'est merveilleux. Et je vous assure, lisez l'Épître aux Hébreux, il faut s'accrocher. C'est une épître dense théologiquement. Et pourtant, écoutez ce qu'il dit. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Vous devriez être des enseignants des autres, des disciples déjà capables d'aider d'autres à grandir spirituellement. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin, non de nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous, on ne jette pas les bébés. Hein. Nous, on ne génocide pas les bébés, on ne fait pas d'infanticide. Mais le bébé, à un moment donné, doit passer du lait, du biberon au beefsteak, à la nourriture un peu plus solide. Et vous voyez, et dans le passage suivant, ce qui m'étonne, au chapitre 6, ça va venir. Merci. Ah. La slide suivante. Voilà. C'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif à Jésus-Christ. Et moi, j'étais là en me disant, qu'est-ce qu'on disait aux premiers croyants? Qu'est-ce qu'on leur enseignait? Que l'auteur de l'Épître aux Hébreux appelle les bases de la foi. Regardez bien. Hein. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte, sans nous remettre à poser les fondements, c'est-à-dire, voilà les fondements, l'abandon des actes qui mènent à la mort, c'est-à-dire l'abandon du péché, la confiance ou la foi en Dieu, l'enseignement sur les différents baptêmes, donc ils étaient enseignés sur les baptêmes, hein, l'imposition des mains, la résurrection et le jugement éternel. On a ici l'un des exemples les plus éloquents du Nouveau Testament qui nous montre que pour enraciner les premiers chrétiens, l'Église a pensé à mettre en place un enseignement structuré et structurant. Il devait être enseigné à propos du péché, un mot en voie de disparition. Il devait être enseigné à propos de la foi. Il devait comprendre le sens du baptême, de l'imposition des mains et du mystère de la résurrection et du jugement éternel. Et quand l'auteur dit que ça, ce sont les bases, vous vous dites, mais qu'est-ce qui vient ensuite au niveau 2 ou au niveau 3? La question, c'est où est-ce que j'en suis ce matin? Jacques, quant à lui, au chapitre 4, nous parle aussi des rivalités, des disputes comme étant un signe de manque de maturité spirituelle. J'aimerais conclure avec les deux dernières slides qui me restent. Avant. Merci, c'est la précédente encore. Dieu a pour nous un projet de vie fructueuse. C'est ainsi que nous avons ouvert ce culte. En évoquant Jean chapitre 15, il est le cep et nous sommes les sarments. Même si l'Écriture parfois nous parle ainsi et semble parfois nous infantiliser, n'oublions pas que le projet, ce n'est pas de nous renvoyer à nos carences, à nos failles, mais c'est de nous pointer le projet de vie, le projet vitalisant que Dieu a pour nous. Alors j'aimerais reprendre cette parole du Christ, commentant la quatrième attitude comme un exemple à suivre. La semence tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Je voudrais en faire une prière ce matin, Seigneur, qu'il puisse faire de nous des hommes, des femmes qui écoutent et qui laissent la parole descendre en profondeur dans nos cœurs pour nous transformer. Alors ils persévèrent dans la joie, ils persévèrent aussi malgré les épreuves. Et ce n'est pas peut-être, c'est certain dans cette parole, ils portent du fruit. Et Jésus a promis que si nous gardons ses paroles et si nous demeurons en lui, nous porterons du fruit qui demeure, afin qu'ainsi sa joie soit complète en nous. Amen.